RMC. Wemby 3 to shoot. Wembanyama fading and hitting. How do you stop it? Wembanyama! Oh my!
Basket time.
Reynaud with the steal. Reynaud on the fast break. Oui, oui.
La semaine des Français.
One, two.
Koulibaly! Are you kidding? Wow!
Arnaud Valadon.
C'est méchant!
Salut à tous, bienvenue dans votre rendez-vous basket sur RMC. Le vendredi, c'est Frenchy, le casting pour évoquer évidemment le duel entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Il mesure 1m72, formé à Cholet Basket, meneur de jeu. Allez, pas trop façon Rigaudo ou De Colo, mais plutôt Aaron Toro-Nancy. Du moins par la taille, c'est Félix Gabory. Salut Félix.
Salut Arnaud, salut tout le monde. T'as été très généreux sur le 1m72. Hein.
Écoute, j'ai demandé à quelqu'un de très informé qui travaille dans mon service, elle m'a dit 1m72.
Bah, elle est gentille avec moi. On est plus sur 1m71, mais tu sais, peut-être que je grandis encore. Hein,
et c'est avec chaussures. Allez. T'oublies pas.
Ah oui, c'est, là, bah, c'est pour ça. C'est ça toute la différence.
Alors là, on va voir si je suis généreux ou pas. J'ai donné 1m80. Formé, j'avais pas trop le choix, j'ai essayé Arpajon dans l'Essonne, meneur arrière, allez, de grande taille pour son niveau, et comme le basketteur le plus connu du 9-1 de l'Essonne, c'est pas évident d'en trouver. Je trouvais Stitchy Kambou, il est surnommé l'escroc. C'est Martin Bourdin, salut Martin.
T'avais pas grand chose de bon jusqu'à la dernière phrase, salut tout le monde.
Ouais, 1m80, non, j'y suis pas.
Un peu plus gros, 1m85.
Ouais, bon, tu vois, c'est pareil que c'est des chaussures.
C'est ça. Pareil.
Bon, l'épisode du jour, vous l'avez bien compris, Wemby contre Rudy, c'est l'affrontement qui tient toutes ses promesses de cette demi-finale de conférence à l'Ouest, Spurs contre Wolves, un partout au moment où nous enregistrons, et j'ai envie de dire presque un partout dans le duel entre Rudy et Wemby. 15 points, 15 rebonds, 7 contre de moyenne pour Victor Wembanyama sur cette série. C'est le plus gros temps de jeu des Spurs, c'est à noter. 6 points d'irbon pour Rudy Gobert en moyenne, un peu plus en retrait, même on va dire offensivement sur le match 2. Le match 1 a vu les Wolves et Rudy Gobert dominer les Spurs et Victor Wembanyama. Et le match 2, c'était l'inverse. Messieurs, quel bilan faites-vous donc de ces deux premiers matchs et de ces deux confrontations directes entre nos Français?
Bah, un bel ajustement déjà de Wemby et des Spurs en général sur le match 2. Donc on va s'attarder plutôt sur Wemby qui avait été une galère monstre au match 1. Donc oui, il y avait 12 contre. Parmi ces 12 contre, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas forcément...
Il y avait 4 ou 5 qui étaient en goaltending. Et...
Minimum 4.
C'est ça. D'ailleurs, Rudy n'a pas manqué l'occasion de bien le souligner derrière. Mais sur ce match 1, vraiment Wemby en grosse difficulté. On a retrouvé un peu Wemby qui retombait dans ses travers qu'on a pu voir en début de carrière sur ses deux premières saisons, d'arroser à 3 points avec ce 0 sur 8. Mais c'était pas non plus que du forcing de la part de Wemby, c'est parce que la raquette lui était tellement bien bouchée par Rudy, mais aussi par la défense collective des Wolves qu'on réussit à l'éloigner vraiment du cercle. Match 2, il a réussi vraiment à se rapprocher du cercle. On l'a vu hyper agressif tout de suite.
Dès le départ.
Première action du match.
Bah, la claquette.
Dunk qui est absolument incroyable. Il a relevé le niveau d'intensité. Il l'a annoncé. Il a dit que c'était une des clés pour lui de se mettre au niveau d'intensité des Wolves sur ces playoffs-là. Donc ouais, Wemby vraiment a répondu présent sur ce match 2. Là où Gobert a moins réussi, comme l'ensemble des Wolves, à le stopper. Même si, quand même, pour Victor, j'ai trouvé qu'il avait très bien débuté ce match 2 et qu'il a eu tendance après à retomber un peu dans ces travers là justement
quand le match était plié, il a un peu
de re-shooter à 3 points.
Bah, il a fait des step back, il a voulu peut-être se donner plus en confiance parce qu'on rappelle la donnée: 0 sur 8 au match 1, 1 sur 2, 1 sur 4, 0 sur 1 sur les 3 matchs d'avant face à Portland. Il avait très bien démarré le match 1 contre les Blazers, on en avait parlé, 5 sur 6.
Il a 2 sur 7 à 3 points dans le match 2.
Et 2 sur 7. Et alors, il en met un dans le deuxième quart-temps et puis il doit en mettre un step back où il est hyper loin. On sent qu'il veut faire sortir Rudy un peu. Dès que Rudy est un peu derrière, tant pis, si je suis 3 mètres derrière la ligne, j'y vais, quoi.
Mais ce qui fait 2 sur 15 sur la série pour l'instant à 3 points. Donc c'est pas très joli. Mais c'est aussi, on se dit que si ça commence à tomber dedans, ça va être aussi embêtant pour les Wolves.
Mais t'as parlé d'ajustement des Spurs globalement. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis à Wemby de briller. Effectivement, la raquette dans le match 1 était fermée à Wemby. Je pense à Randle aussi, qui n'est pas réputé pour être un gros défenseur, mais qui a fait un gros boulot sur lui. Jaden McDaniels aussi, qui a sacrément défendu sur lui, un peu à la manière de ce qu'avait fait Jrue Holiday avec Portland au premier tour. Au match 2, les Spurs, ils sont arrivés avec d'autres intentions déjà dans l'intensité physique. Ils ont mis beaucoup plus de d'impact physiquement. Il y en a un qui a été très important là-dedans, c'est Stephen Castle, qui a, lui, mis beaucoup d'intensité, qui est allé chercher, qui est allé dans la raquette. Et derrière, ça a libéré des espaces aussi parce que comme lui a été très fort physiquement, ils ont dû mettre des mecs qui avaient du répondant. Ils ne pouvaient pas se contenter de mettre Mike Conley ou même Anthony Edwards, qui était encore un petit peu diminué quand même. Tu sens qu'il n'est pas encore au top, Anthony Edwards. Et donc, il a fallu mettre du répondant et il a fallu mettre... À un moment donné, il y a Randle qui a défendu sur Stephen Castle. Et tout ça, ça aide aussi Wemby parce que, mine de rien, quand tu as quelqu'un qui est physique et qui vient l'agresser en permanence, c'est pour ça que là, justement, je trouve global des Spurs sur le match 2, au-delà de l'intensité physique, mais même les ajustements tactiques, ils ont fait visiblement une séance vidéo avec Popovic. Ça a visiblement été assez intéressant à suivre. En tout cas, ça a apporté ses fruits. Même Mitch Johnson, parce que c'est quand même lui l'architecte de cette équipe-là.
Il reste un coach rookie en play-off. Hein.
Et il fait, je trouve, un sacré boulot, en tout cas, sur les ajustements. Faudra voir comment ça évolue, parce que je reste persuadé que les Wolves sont arrivés un peu la fleur au fusil à ce match-là. Ils avaient pris le match 1.
Ils avaient récupéré l'avantage du parquet.
Ouais, ils ont récupéré l'avantage du parquet. Moi, je les vois encore un petit peu. On va peut-être se projeter un petit peu après, mais je les vois encore en avantage pour le moment. Ils ont réussi à récupérer Edwards plutôt que prévu. Ils lui ont donné du temps de jeu.
Dosunmu est revenu aussi.
Dosunmu est revenu, donc... Faut voir les ajustements que va faire Chris Finch à son tour, parce que je pense que le visage affiché par les Wolves, et notamment encore une fois dans l'intensité physique, mais ça a été un peu le cas tout au long de la saison des Wolves, qui ont été capables de faire des séquences défensives énormes et derrière de s'écrouler complètement. Là, ils se sont écroulés, ils ont pris à un moment donné, il y avait quasiment 50 points, je crois, 47 points d'écart à un moment donné dans le match. C'est pas le niveau des Wolves. C'est pas le réel niveau des Wolves pour moi sur le match 2.
Mais c'est quand même étonnant de les voir à tel point s'écrouler. Parce que t'as parlé d'irrégularité. Sur la saison régulière, ils étaient très irréguliers. On en parle tout le temps, mais c'est les Wolves depuis 2-3 ans. Ouais. Mais par contre, sur le premier tour des playoffs contre les Nuggets, ils avaient jamais vraiment connu ces trous d'air-là. Donc c'est pour ça que moi, j'ai comme un peu envie de mettre au crédit des Spurs, les avoir surpris sur la réaction.
Puis dès le début, dès le deuxième quart-temps, t'avais plus 20, c'est presque monté à plus 40. Après, je pense que t'as vu plus 20 à la mi-temps, tu t'es dit ne gaspillons pas de l'énergie, alors que là le match 3 qui arrive est évidemment capital, tu passes à 2-1, éventuellement si tu reviens à San Antonio ça serait 2-2, donc voilà. C'est moi je voulais vous entendre juste, comment vous jugez les 6 premiers matchs de play-off de Wembanyama? C'est moins de points qu'en saison régulière, un peu moins d'adresse, notamment à 3 points, c'est moins de passes, au rebond c'est équivalent, il a 10,5 prises contre 11 à peu près. Il y a aussi un peu de l'apprentissage. Est-ce qu'il faut aussi se dire, il y a eu cette commotion cérébrale, ça n'a pas forcément été évident à gérer?
Ça joue forcément. Déjà, si tu veux faire sur les playoffs en entier, oui, sur le premier tour, forcément, même dans sa moyenne de points globale, parce qu'il sort au bout de 10 minutes de jeu dans le match où il se fait la commotion cérébrale. Après, quand il revient, il met une mi-temps au moins à se remettre dans le rythme. Donc, c'est un peu dur de le juger, je trouve, sur ce premier tour, sachant qu'en plus, on a très bien vu que les Spurs avaient quand même de la marge par rapport à ces Blazers. Donc, il n'a pas eu non plus besoin de s'employer. Après, oui, sur ce deuxième tour-là, d'ailleurs, lui-même n'était pas du tout content de ce qu'il avait produit au match 1. Un match 1 d'ailleurs qui ne perd que de 2 points. Donc c'est quand même...
Et qui sont à 10 cm de gagner.
C'est ça, avec un bon shoot, un shoot ouvert en plus de Ciampagny.
Vous pouvez avoir, il y a le débat.
On a eu le débat là mardi. Mais ce qui est aussi du coup tu vois, rassurant pour les Spurs, c'est qu'avec un Wemby qui est complètement passé à côté offensivement sur le match 1, ils étaient à seulement 2 points et à un shoot de remporter ce game 1. Mais plus globalement sur Wemby, alors oui, il est en galère offensivement. Il faut s'ajuster. Il l'a fait déjà un petit peu sur ce match 2 en étant bien plus agressif. Plus adroit, même s'il y a quand même ce 2 sur 7 après à 3 points qui n'est pas très joli sur ce match 2.
Il y a 7 sur 15 au total, donc tu vois déjà. Bon.
Mais on peut de toute façon faire confiance à Wemby pour s'ajuster. On sait très bien qu'après le match 1, il était tellement en colère contre lui. Il a même endossé la responsabilité entière de cette défaite en disant « c'est de ma faute ». Donc en très bon leader qu'il est. Mais après, ce qui est impressionnant avec Wemby, et on le répète depuis qu'il arrive en NBA, c'est que même s'il en galère offensivement, il pèse tellement défensivement. Tu vois. Alors oui, quand tu regardes sa moyenne de points, tu te dis que ce n'est pas à la hauteur d'un franchise player et d'un leader sur des playoffs, mais il fait tellement de bonnes choses.
On en avait parlé, je crois, la semaine dernière, et moi je trouvais que ce n'était pas forcément une série où faut s'attendre à voir Wemby ultra dominant, parce qu'avec Rudy Gobert en face, cette raquette... Il y aura la volonté forcément de le neutraliser, que ça viendrait plus des extérieurs et d'avoir un Wemby Allez, gestionnaire, il est la menace et il permet de libérer, comme on a vu aussi en saison, libérer de l'espace pour les autres, pour que des Cassel, des Harper, des Vassell puissent s'exprimer.
Moi, tu me dis qu'il fait un carton d'ici la fin de la série contre les Wolves, ça ne m'étonnera pas, mais effectivement, je pense que la clé de la série pour les Spurs, enfin pour les deux équipes d'ailleurs, c'est plus sur les lignes arrières. C'est plus, je pense, là où ça va se jouer. Par contre, pour revenir à Wemby, effectivement, il apprend qu'il mette moins de points, qu'il ait des stats qui soient un peu moins importantes. Il y a deux choses pour moi. Déjà, c'est les playoffs, donc forcément, les défenses sont plus resserrées. Lui, il est ciblé parce que c'est l'arme numéro un des Spurs, et on l'a vu même contre Portland, où bah, l'enchaînement des matchs fait que tu prends différentes options, il faut s'adapter. Lui, il apprend tout ça encore une fois, et je trouve qu'il apprend plutôt très vite, parce que le match 2 qu'il fait contre les Wolves, sa réaction, comme tu l'as dit Félix, elle est géniale et elle est top dans l'intensité à minima. Il prend 15 rebonds, c'est quand même pas...
Deux fois 15 rebonds face à Rudy Gobert, tu vois, c'est ouais, ça la clé.
Et face à Rudy Gobert, face à Randle et face à Nasrid. Enfin, il y a du monde dans la raquette des Wolves. Et l'autre chose, c'est qu'il brille moins aussi parce que il y a des joueurs autour de lui, encore une fois, je pense à Stephen Cassel, D'Aaron Fox qui a sorti un peu la tête de l'eau aussi sur le match 2. Il y a des joueurs autour de lui qui sont capables de marquer. Champagny, il fait un début de série qui est plutôt très très bon pour son niveau. Donc voilà, c'est le principe des playoffs pour moi. C'est que ta superstar, elle doit être à ton niveau. Il met un peu moins de points, mais il reste quand même à des niveaux de franchise player. Enfin, ça reste, c'est pas le meilleur marqueur, je crois, des playoffs sur les Spurs. Je crois que c'est Cassel qui met le plus de points. Mais ça reste à un niveau élevé. Et derrière, tu as des joueurs qui vont élever leur niveau. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec les Spurs. Moi, qui marque un peu moins de points, qui soit un peu moins présent dans les stats, ça me dérange pas parce que dans le jeu, il est omniprésent.
C'est pour ça que je te citais que sur le match 2, c'est le plus gros temps de jeu des Spurs. Ça n'a pas dû arriver. Il y a eu beaucoup de load management.
Le jeu à 25 minutes, hein, il me semble, de mémoire, sur le
oui,
match 2.
Bah, avec,
oui,
avec,
oui, avec le blowout.
Il y a tellement un blowout que en fait, tout le monde sort dans le troisième quart-temps et t'envoies que les secondes plus tôt.
Il est rentré à la fin. Enfin, mais sur l'impact qu'il a sur son équipe.
Mais tu vois, même 40 minutes au match 1.
Oui, oui. Oui, mais ça, on peut, d'abord, ça peut être aussi un motif pour être rassuré par rapport à Victor. Parce qu'on pouvait se poser la question sur la fin de la régulière. On a eu d'ailleurs ces débats-là de voir est-ce que Victor, qui avait été un peu load managé, un peu préservé, qui était en dessous des 30 minutes de moyenne sur
contre
toute la saison régulière.
Plus, un peu aussi.
Non, mais sur toute la régulière, c'était ça aussi. Il n'a jamais dépassé vraiment
plus
les 30 minutes.
Plus la commotion premier tour.
Et donc, c'est quand même un motif un peu de satisfaction de le voir capable de jouer 40 minutes. Mais tu vois, Martin, tu parlais du secteur intérieur aussi et du fait que forcément, du coup, pour Victor, c'est compliqué de vraiment marquer beaucoup de points. C'est pour ça que tu as raison sur les lignes arrière qui peuvent être vraiment la clé côté Spurs, parce que Victor, il est vraiment en sous-nombre entre guillemets quand tu regardes les forces intérieures, parce que voilà, entre Gobert, Nasrid, que je trouve, il est d'une intensité. En plus, il a ce petit côté un peu vice, un peu nasty. On en parlait mardi aussi, Arnaud, dans le podcast.
Un peu de Draymond Green en lui, tu vois.
Non, mais tu vois, puis en plus,
sans le trash talking, mais
c'est
sur
un gars qui a de l'expérience. Puis il est tellement physique. Même Randle, qui m'a surpris aussi sur l'intensité physique capable de mettre. Et du coup, tu vois, ça fait déjà trois gros bébés que tu dois coltiner sur le palto, alors que derrière
plus
toi...
McDaniel, ce qui est capable aussi de venir faire un coup de main.
Et que même si t'as Luke Cornett en rotation, tu vois, t'as pas un secteur intérieur dans chez les Spurs.
C'est ça, le secteur intérieur des Spurs. Derrière, t'as Luke Cornett. Après, t'as des petits postes 4. Tu vas avoir des Harrison Barnes, des Keldon Johnson, etc.
Ton ami Carter Bryant est revenu, d'ailleurs.
Voilà, mais tu vois, Carter Bryant, pareil, on a parlé il y a trois jours dans l'épisode, il peut apporter cette dimension physique, même si, d'un niveau taille, il va souffrir aussi. Donc voilà, Victor, c'est aussi... c'est pas cadeau, hein, ce match-up, quand tu regardes vraiment les deux rosters, c'est vraiment, vraiment pas cadeau pour lui et bah, il s'en sort plutôt bien.
Mais c'est là où je le trouve fort aussi, c'est que j'ai l'impression que ça, il l'a compris et qu'en fait, il fait croquer, entre guillemets, ses coéquipiers.
Il joue pas
pour lui. Alors effectivement, il prend des shoots un peu casse-croûte quand les carrés fait, peut-être pour se remettre en confiance à 3 points, etc. Mais effectivement, il surjoue pas. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il faut pour que l'équipe gagne. Bah écoute, moi,
parce que
je suis entraîneur des Spurs, je me dis bah tout bénef. Hein. Enfin,
parce que c'est vrai que sur les tirs à 3 points qu'il prend, match 1, tu vois, il finit à 0 sur 8, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même appelés par le jeu. C'est-à-dire c'est après un écran, Rudy est un petit peu en retard, et tu te dis oui, bah, c'est des tirs qu'il a l'habitude aussi de prendre, et c'est pas du tout ce qu'il prenait lors de sa première saison aux Spurs, souvient, tu vois, où Popovic avait dit je le laisse aussi un peu apprendre, je le laisse découvrir, et moi aussi essayer de le comprendre, et je trouve pas la sélection, je veux pas te dire que c'est la sélection la meilleure qu'il ait pu faire, mais pas illogique, pas foncièrement mauvaise quoi, sur ces tirs à 3 points.
Bah oui, parce que après, si t'es, quand t'es ouvert et que par exemple Rudy est en retard, si tu prends pas le shoot, bah après c'est contre nature, tu vas contre le jeu. Donc c'est pas. Voilà, après le sport, enfin le basket reste un sport d'adresse. Donc oui, bah, les sports où ça tombe pas dedans, bah, tu fais un très vilain 0 sur 8 et bah, ça pénalise un peu ton équipe. Mais si tu commences à refuser les shoots. Bah non,
et que tu sanctionnes pas le pari défensif.
Et puis le soir où ça tombe dedans, ça va t'ouvrir des brèches parce que derrière, tu peux pas laisser quelqu'un ouvert à 3 points et du coup, la raquette, elle va être ouverte. Donc pour moi, oui, effectivement, tous les shoots, même s'il fait 0 sur 8, il y a des shoots qui peut ne pas prendre, il y a des shoots peut-être qui forcent un peu, mais.
Là, il était loin en match 2. Hein.
Ouais.
Et par contre, sur le match 2, quand il met son premier 3 points, tu le sens vraiment hyper soulagé.
Ouais, libéré.
C'est ce qu'on aime aussi, libérer, ce qu'on aime aussi chez Victor, c'est qu'il montre vraiment toutes ses émotions et que voilà, il essaie pas de cacher. Vraiment, quand il le met, tu le vois, il a le côté un peu pourrageur, il est vraiment content, soulagé, délivré. Donc, tu sens que même lui, il y pensait, il en avait conscience que sur ce match 1, fallait que ça rentre, quoi. Sur ce match 2.
Les Wolves contre les Spurs, comment vous voyez la suite, l'impact notamment de Rudy, alors qu'à au début du match 2 a défendu sur Victor et après ça a quand même beaucoup tourné. On a vu Randall notamment défendre sur Victor, on a vu que les Wolves avaient un plan anti-Wemby. Martin, comment tu vois la suite? Est-ce qu'ils vont réussir à une nouvelle fois gêner les Spurs, sachant que les deux prochains matchs, c'est à Minnesota?
Pour les Wolves, globalement, la clé, de toute façon, pour eux, mais ça a été le cas à chaque fois qu'on a parlé des Wolves cette saison, j'ai l'impression, et à chaque fois qu'on les a vus un peu dans la nasse à prendre des 20-30 points d'écart sur certains matchs, c'est l'intensité physique, en fait, et ils le reconnaissent eux-mêmes. Anthony Edwards, à la fin du match, le dit, on n'a pas été là dans l'intensité physique. Pour moi, c'est une équipe qui ne peut pas se permettre de se relâcher parce que ils ont besoin, ils se nourrissent de ça en fait. Après attention, parce que je pense que c'est aussi d'un mec comme McDaniels, Anthony Edwards, j'en parle même pas, c'est des bêtes d'ego ces mecs là. Là je pense que ça les a touchés, le moins 47,
la fessée.
La fessée, je pense que ça les a touchés. Moi j'attends une réaction énorme le premier match à Minnesota. Concernant Rudy, je trouve que cette série elle est paradoxalement peut-être un petit peu plus compliquée pour lui que celle des Nuggets. C'est peut-être très bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est presque plus facile, ou en tout cas moins difficile pour lui de défendre sur un mec comme Jokic qui est beaucoup moins mobile que Wembanyama, qui a une vision du... Enfin, Jokic, on va pas refaire le CV du garçon, c'est un mec qui a un QI basket énorme et qui va trouver des passes, qui va toujours réussir à marquer des points. Mais en un contre un, entre guillemets, Rudy, il peut sortir peut-être plus facilement sur Jokic et le suivre plus facilement s'il arrive à driver. Sur Wembanyama et sur les Spurs, globalement, je le trouve peut-être un peu plus en difficulté parce que Wembanyama a cette mobilité-là.
Qui ne poste pas alors que...
Qui ne poste pas alors que Jokic va poster.
Et Victor donc, te voir jouer de face. Quoi. Victor, il veut te jouer de face.
Et Victor joue finalement, peut jouer sur les points faibles de Rudy Gobert. Ça ne veut pas dire que Rudy ne va pas faire des bons matchs, etc. Mais peut-être qu'offensivement, ils peuvent aussi peut-être un petit peu plus l'impliquer, pas forcément pour scorer, mais on l'a vu contre les Nuggets, capable de faire des passes aussi, Rudy. Il n'a pas forcément que tout le temps des mauvaises mains.
Ouais, mais tu vois, justement, parce que contre les Nuggets, il était tellement en feu et mis dans une confiance extrême parce qu'il faisait en défense sur Jokic.
Derrière, il était fort.
Que tu le sentais c'est surmotivé, enfin, je n'ai pas le mot, mais tu vois, tu le sentais genre complètement dans la zone. Et même en attaque. Et qui commençait à faire des choses. On en avait parlé, il commençait à faire des petits bras roulés, des petits trucs. Tu disais, mais attends, mais Rudy.
Et ça tombait dedans, quoi.
À poser des dribbles en courant vers le panier.
Et là, bon, par contre, il revient un petit peu au Rudy qu'on connaît, qui est un peu plus effacé en attaque.
Tire-ball sur lancé.
Voilà, déjà, moi, je m'étais noté sur ses stats sur lancé, parce que le 4 sur 14 sur la série, il n'est pas beau. Hein. 3 sur 9 sur le match 2. Et mine de rien, dans le premier ou deuxième quart, quand tu dois un peu maintenir l'écart, moi, justement, je l'ai vu. Louper des lancers francs, faire des 0 sur 2 et tu te dis c'est toujours très pénalisant.
C'est un problème global d'ailleurs sur les où je trouve les lancers.
Oui. Mais tu vois Rudy, là où en fait dès qu'il est pas impactant défensivement, tu sens que il est pas dans la zone en attaque, il a pas cette mise en confiance en attaque. Et même en défense, moi j'ai trouvé, alors on avait déjà dit que c'était pas le même match-up pour Rudy face à Wemby, que Wemby c'était pas Jokic et c'était bien moins bien pour lui, mais même au-delà de ses galères en 1 contre 1, je trouve que dans la question de l'intensité qu'on a beaucoup détaillé depuis le début du podcast, il a pas réussi à un peu taper du poing sur la table.
Il y a un petit cran en dessous par rapport aux Nuggets.
Ouais, mais tu vois, c'est pas que de sa faute, mais ça peut être aussi le garçon qu'on attend pour aller justement réveiller un petit peu tout le monde. Quant à Anthony Edwards qui nous dit à la fin du match, bah, on n'a pas rentré dans le match avec l'intensité, bah, en fait, Rudy peut faire partie de ces garçons-là, justement en leader de la défense des Wolves, qui justement va aller taper un peu du poing sur la table, un peu secouer tout le monde et insuffler cette intensité-là en défense. Je ne l'ai pas vraiment vu faire ça sur ce match.
Comme McDaniels, moi j'attendais McDaniels là-dessus aussi. Alors il est pris par les fautes, hein. Il a des problèmes de fautes, je crois, sur les deux premiers matchs, McDaniels, mais moi aussi je l'attendais plus là-dedans. Enfin, quand tu vois la série, pareil, qui fait face aux Nuggets, en plus il ouvre sa bouche, tu te dis bon vas-y, face aux Spurs, face à Wemby, il va aller, pourquoi pas, à un moment donné quand Wemby essaie de monter au dunk ou je sais pas quoi, essayer de l'attraper pour un statement quoi, envoyer un message finalement. Il s'est rien passé.
Il s'est fait avaler aussi par l'apathie collective des Wolves
sur ce match 2. C'est pour ça que je pense qu'au match 3, le visage des Wolves risque d'être un petit peu différent.
Parce que,
plus à domicile.
Si on devait faire un petit comparatif pour anticiper sur le match 3, mais match 1, match 2, je crois que dans les deux cas, tu as les Spurs qui sont devant dans le deuxième quart-temps, sauf qu'au match 1, ils n'arrivent pas vraiment à se défaire des Wolves, et au match 2, c'est là qu'il y a le blowout qui commence. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut se dire, est-ce que Minnesota va pas être devant au score, comment ces Spurs vont gérer aussi. On peut s'attendre à une inversion de la physionomie parce qu'on a vu, ils perdent que 2 points les Spurs, mais par le moment, le momentum était quand même du côté de San Antonio plutôt que des Wolves sur les deux premiers matchs au Texas.
Même si au match 1, c'est les Spurs qui reviennent dans la fin du match. Justement,
et à la fin, ils cèdent très tôt, début
donné,
du quatrième.
Dans le quatrième quart, voilà, notamment, tu as Mike Conley qui fait très mal.
Quand Gobert est sur le banc, d'ailleurs, quand
Oui, c'est vrai. Et t'as Edwards aussi qui commence à se réveiller, à mettre
des gros paniers.
Il a été très maladroit là sur ces deux premiers matchs. Tu le sens peut-être un peu en manque de rythme, etc. Mais quand il a mis dedans au match 1, bah voilà, ça a fait l'écart. Et là, justement, les Spurs étaient menés de 8-9 points. Ils ont réussi à revenir dans le quatrième pour finalement perdre de 2 points sur ce fameux shoot manqué de Champagny.
Comment vous voyez donc là ce match 3? Plutôt Wolves, plutôt Spurs.
Martin,
plutôt...
il l'a bien dit, hein, c'est la grosse réaction d'orgueil des Wolves.
Vous voyez les Wolves prendre le match?
Au moins ce match 3, oui, je pense.
Moi, enfin,
ça fait 2-2 après les deux matchs. On peut mettre les deux matchs de Minnesota dans le paquet.
Moi, je pense que ça va repartir à 2-2, mais si les Wolves veulent avoir une chance, il faut qu'ils prennent le premier. S'ils perdent le premier à Minnesota, j'ai peur pour que ça puisse aller beaucoup plus vite que moi je pensais plus à un 4-3 potentiellement, hein. Je voyais bien un match 7 sur cette série là s'ils perdent le match 3, les Wolves, vu ce qui s'est passé au match 2, tu perds le match 3 en arrivant chez toi, ça peut aller vite derrière.
Moi, je vois le 2-2 aussi. Je vais rester sur mon prono de la semaine dernière. J'ai 4-3. Je voyais une série très serrée. Donc, pour moi, oui, ça fait 2-2. Je vois vraiment cette série comme vraiment un match de boxe de vraiment les deux équipes se rendent coup pour coup à chaque fois. Les ajustements sont très importants, comme dans toutes les séries de play-off. Mais là, encore plus, que c'est vraiment deux équipes qui ont les moyens de s'adapter, de s'ajuster, de tenter des choses. C'est deux équipes qui ont vraiment du matos. C'est des effectifs profonds, tu vois. L'effectif profond des Spurs, on le connaît. C'est pas pour rien que, même sans Victor, ils ont réussi à finir deuxième de conf et à enchaîner les victoires. Pareil pour les Wolves, tu vois, Terrence Shannon qui
sort du bois comme ça.
Qui sort du bois. Ils ont un super effectif. Donc les deux équipes ont des capacités à s'adapter, à proposer des choses différentes. Donc voilà, je le vois comme un match de boxe. Donc je le vois repartir après ces deux matchs à Minnesota en 2-2. Et on y va jusqu'au 4-3. On veut un Game 7 à San Antonio. On a envie de ça. Moi, j'en parlais la semaine dernière aussi pour, même dans ce début de carrière de Wemby, dans son apprentissage, on a envie de le voir. On a envie de voir Victor dans un Game 7. Et encore plus Victor contre Rudy dans un Game 7.
Et je pense qu'il y a aussi une chose qui va être importante, c'est l'état de santé d'Anthony Edwards. Évidemment, je trouve ça très bien qu'il ait joué les deux premiers matchs parce que ça lui a permis de se mettre un petit peu en rythme. Il était censé revenir à l'origine au match 3, donc j'imagine que là, il va être en rythme. Et franchement, moi, l'affrontement Wembanyama-Anthony Edwards...
Ah oui.
Ouais, match 7, je le veux ça.
On l'a vu sur des séquences, hein. J'ai au moins une séquence en tête sur le match 2 où Edwards défend sur Wemby et tient un peu le post-up et provoque une perte de balle de Wemby qui l'envoie dans les tribunes. Donc c'est marrant, hein, de voir les deux en contre 1.
Donc je dis la même chose à toi, Martin, qu'à Félix la semaine dernière. Vous voulez trouver des Spurs rincés contre OKC en finale de conf?
C'est une équipe jeune, ils arriveront à trouver les gens, mais ils sont tous, c'est tous des gamins là-dedans.
D'ailleurs, j'allais dire, on attend peut-être une grosse perce offensive parce que les meilleures performances offensives, c'est 21 points, Randle au premier match, Castle au deuxième match. Tu vois, il y a très peu. Alors, Minnesota, il y a eu garbage 8 parce que le meilleur score, c'est 12 points, je crois que c'est Shannon sur le match 2.
3 à 12 points, je crois.
Ouais, non, mais il y a un petit côté garde tranchée hein, aussi entre ces deux.
Mais ça qui est intéressant,
c'est pour l'instant la plus belle série des 4 matchs qui nous sont proposés. Allez, New York-Philly, le match 2 était intéressant, mais t'as vu le blowout du match 1, là on a eu. Bon, il y a eu match 2.
Ouais, le match 2, il est
le blowout, on le digère mieux parce qu'on est content que ça revienne à un partout et que ça soit serré. Mais non, mais c'est une vraie guerre. Au moins sur les deux premiers quarts de ce match 2, vraie guerre de tranchées. Mais tant on le savait que c'était deux des meilleures équipes.
C'est là où je disais tout à l'heure que pour moi, on n'a pas encore vu ensemble.
De toute façon, c'est la seule série à partout.
On n'a pas vu ensemble le vrai niveau des deux équipes. Pour moi, au match 1, les Spurs, dans la réussite offensive, etc., dans ce qu'ils ont proposé, c'était en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Et le match 2, les Wolves, j'en parle pas parce qu'ils sont passés complètement à côté. Si on arrive enfin à avoir des matchs où les deux équipes jouent à leur niveau, mais ça va être génial.
Un petit mot des deux autres Français. Bon, rapide, puisque Mohamed Diawara et Paco Mbadier avec les Knicks n'ont pas joué le match 2 et lors du match 1, qui était un gros blowout au Madison Square Garden. 8 minutes pour un Mohamed Diawara, 5 points de rebond, vraiment les dernières minutes hein, du quatrième quart-temps. Et 9 minutes pour Paco Mbadier, 4 points de passe. Voilà, comme ça c'est dit.
À surveiller pour Mohamed Diawara la possible blessure de Anunoby. Anunoby qui est sorti, qui avait un petit pépin physique. À la cuisse, on n'a pas eu trop d'updates.
Un peu inquiétant, hein, les images.
Bah ouais, mais tu vois, on est pile sur le poste où potentiellement, s'il y a un garçon en bout de banc qui peut gagner des places, des minutes dans la rotation, peut-être Diawara.
Surtout en menant 2-0, ça peut permettre enfin. J'ai l'impression que n'importe quel coach à New York, on ferme les rotations, tu sais. C'est passé. Tom Thibodeau, il a marabouté le bord des Knicks. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Basket Merci. Time, votre rendez-vous tous les mardis, tous les vendredis pour parler des Frenchies sur toutes les plateformes. C'est téléchargeable. Très bon week-end et à très vite. Merci, ciao.
RMC Basket Time.